Et sans attendre, on passe la parole à notre deuxième orateur et on reviendra sur votre conférence tout à l'heure. Donc la parole est à Yannick François, la psychanalyse hors ses murs.
Alors effectivement, nous sommes là dans ces journées autour de, et l'Andro de la Jonquière l'a bien mis en avant, dans des questions de, au sein de, des enjeux d'une époque. Alors effectivement, dans cette matinée est consacrée à la question de psychanalyse et institution, question qui ne peut pas être dissociée de celle des enjeux d'une époque précisément. Il a été évoqué à l'instant la question éducative. Je vais l'évoquer sous un autre angle, cette question des enjeux d'une époque, sous l'angle de la légitimité à reposer de la place de la psychanalyse en institution, qu'elle soit médicale, qu'elle soit scolaire éventuellement, ou qu'elle soit dans des lieux plus originaux. Cette question de la légitimité de la place de la psychanalyse, elle a une histoire historique, en tous les cas en France, on la connaît. On connaît bien sûr la place de Françoise Dolto, on connaît aussi celle de Jenny Aubry qui a fait rentrer, entre guillemets, la psychanalyse, elle aussi, à l'intérieur du champ hospitalier. Un courant qui est peut-être moins connu et auquel on fait souvent moins référence quand il est question de Dolto, est le courant de la psychiatrie institutionnelle, qui là aussi a fait rentrer la psychanalyse, qui paradoxalement avait son lieu d'accueil naturel du côté de la psychiatrie. Eh bien, c'était pas si évident que ça. Il a fallu en effet le courant de la psychiatrie institutionnelle pour fonder cette inscription de la psychanalyse dans le champ de la psychiatrie. Alors, tout ça pour dire qu'entre ces moments qu'on va dire révolutionnaires, ces moments d'invention qui étaient fortement marqués par une visée des aliénistes liée très clairement à ce qui s'était passé pendant la guerre. Bref, à ces mouvements-là, qui se sont construits les uns après les autres. Pour en citer un autre exemple, on peut citer celui de la SM13, dont je fais partie, où je travaille, qui a été le premier secteur de psychiatrie, hein, j'insiste bien, en tant que secteur, à poser et qui continue de poser la psychanalyse au cœur de sa pratique. Bref, à partir de ces moments historiques, on arrive à cet autre moment, à celui dans lequel on se trouve, hein, d'où la question des enjeux d'une époque, à ce moment où, au contraire, la psychanalyse n'a plus cette place évidente et contestée pour de bonnes et de mauvaises raisons, du reste, souvent pour de mauvaises raisons, mais en tous les cas, sa place là, ce qui était devenu dans les quelques décennies précédentes, presque normal dans un certain nombre de lieux, devient finalement une question, et y compris, et ça n'est pas le moindre des paradoxes, dans le champ de la psychiatrie, en particulier de la psychiatrie adulte. Donc finalement, cette question de la légitimité, de la place de la psychanalyse en institution, elle nous est reposée de l'extérieur aujourd'hui, mais elle doit, à mon avis, et c'est l'objet de mon propos ce matin, être reposé par nous aussi. C'est-à-dire que cette question de la psychanalyse en institution est renvoyée très souvent du côté des résistances à la psychanalyse. Je n'en traiterai pas ici. On a de nombreux débats dans les revues, etc., bon, où il est question de cette question de la résistance à la psychanalyse. Mais il y a un autre aspect, c'est celui-là dont je voudrais parler, c'est celui de la résistance de la psychanalyse à pouvoir, de la résistance ou des difficultés de la psychanalyse à pouvoir être déplacée hors de son champ de constitution, hors ses murs, comme je l'ai indiqué en titre de mon intervention. Alors cette distinction, résistance à la psychanalyse, résistance de la psychanalyse, je l'emprunte à Derrida, et en particulier à sa conférence de clôture des états généraux de la psychanalyse en juillet 2000. Et donc dans cette grande conférence de clôture, par parenthèse tout à fait magnifique et qu'on peut retrouver imprimée chez Galilée, donc dans cette conférence de clôture, il était question de cette distinction. Alors qu'on attendait de Derrida qu'à la fin de ces états généraux, il pose des bases à une refondation de la psychanalyse, il indique des pistes, il donne des solutions, pourquoi pas. La position de Derrida était d'interroger les psychanalystes, d'interroger leur position et d'interroger précisément ce qu'il a appelé la résistance de la psychanalyse. Alors ce débat, qui devient effectivement très contemporain et dont les enjeux sont à mon sens majeurs, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas, il ne suffira pas dans les années qui viennent de dire « oui, mais on résiste à la psychanalyse », il faudra aussi que les psychanalystes ou les thérapeutes appuyés sur la psychanalyse prennent aussi en compte les résistances et les difficultés internes à la psychanalyse. Alors ce débat, il a une histoire aussi. La question s'est toujours posée dès le début de la transposition, du déplacement, de l'usage des concepts psychanalytiques en dehors de leur champ d'advenu, de leur champ de création, c'est-à-dire en dehors du cabinet et en dehors de la cure. Comment passer de l'expérience de la cure analytique à son application dans d'autres domaines ? On est face à une contradiction. Les premiers psychanalystes, et pas seulement eux, jusqu'à aujourd'hui, il y a un devoir de diffusion, d'information. Dolto en est l'emblème de ce point de vue-là. Ce qui se découvre dans le champ de la psychanalyse, très naturellement, aurait-on envie de dire, pourquoi ne pas le transposer, ne pas l'appliquer dans d'autres champs ? Il y a certes ce devoir de diffusion, d'information, mais un autre mouvement contradictoire est tout aussi important, est celui du maintien de l'altérité radicale de la psychanalyse. Comme dirait Derrida, de la raison psychanalytique. Est-ce que la psychanalyse ne va pas perdre son âme, entre guillemets, à sortir de son champ ? C'est du reste ce qu'on a beaucoup reproché à Dolto, en particulier autour des émissions à la radio. Alors, il ne s'agit pas d'intégrisme, en l'occurrence, il s'agit effectivement que la raison psychanalytique, comme disait Derrida, que l'altérité de la psychanalyse puisse, elle aussi, continuer de construire son champ, de construire ses frontières afin, comme en toute science, y compris en sciences humaines, des outils propres puissent continuer de s'élaborer et non pas se dissolvent en quelque sorte dans une psychopédagogie, une psycho-quelque chose. Alors, si on prend le point de vue de Dolto, c'est pas vraiment sous cet angle théorique et un peu compliqué ou un peu coincé, j'ai envie de dire, de façon ironique, que Dolto a abordé cette question, bien au contraire. C'est du côté de la vie, c'est du côté du mouvement. À partir, à mon avis, de deux points. Il y en a beaucoup d'autres, mais à partir de deux points en particulier. Ce qui lui a permis de faire ce passage, que j'évoque comme difficile, et qui paraît finalement pour Dolto si facile et si évident. Alors ces deux points, j'en ai évoqué un hier matin dans la petite introduction à ces journées, c'est que je pense que la cure de l'enfant est le paradigme, le modèle de quelque chose du possible de ce passage du cabinet à l'espace social, disons. J'y reviendrai. Donc, premier point, d'appui pour Dolto, le paradigme de la cure de l'enfant, c'est-à-dire la cure de l'enfant comme modèle. La cure de l'enfant, et on l'a entendu hier à propos des cures à trousseau en public, la cure de l'enfant comme permettant, par son dispositif, par ce qu'elle suscite, ce passage apparemment impossible, ou difficile en tous les cas, de l'espace de la cure à l'espace public. Et le deuxième point, puisque j'en reviendrai plus en détail sur ces deux points, le deuxième point, alors là, d'un point de vue plus théorique, je l'ai évoqué aussi rapidement hier en introduction, c'est que pour Dolto, l'enseignement de la psychanalyse, c'est-à-dire ce qu'elle voulait donner à entendre de la psychanalyse en dehors du champ psychanalytique, relevait de ce que j'ai qualifié hier de propédeutique, c'est-à-dire d'un enseignement qui prépare à un autre enseignement. C'est-à-dire que Dolto ne cherchait pas, à mon avis, à ce qu'on apprenne à partir d'elle la psychanalyse, mais que ce qu'elle avançait, elle, du point de vue théorique, permettait éventuellement, si on le souhaitait, d'aller vers un enseignement proprement dit de la psychanalyse. Donc il y a une valeur propédeutique de ce qu'a avancé Dolto dans le champ proprement théorique, qui là aussi était une façon de franchir la frontière sans rupture. Alors, je crois que c'est important de mettre ces questions en perspective à la fois du point de vue de la question des enjeux d'une époque donc qui dépasse bien évidemment l'œuvre de Dolto, mais aussi du côté de Dolto, puisque On retrouve là l'inventivité de Dolto, sa capacité à inventer des solutions originales, partielles, expérimentales d'une certaine manière, que ce soit l'école de la Neuville, que ce soit plus tard les émissions à la radio, et on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Donc il y a quelque chose là qui apparemment serait une impasse, serait une difficulté, qui par Dolto est toujours franchie sur le mode de l'invention, de la trouvaille, sans que ce soit péjoratif. Un autre point aussi, qui justifie cet abord un petit peu, on va dire, théorique de cette question-là, c'est qu'en abordant ainsi l'histoire des relations de Dolto avec la psychanalyse et son application, entre guillemets, dans le champ social, on contourne aussi le risque de faire du Dolto, il en a été question aussi, et aussi hier, c'est-à-dire de reprendre tel quel, justement, ses trouvailles, tout ce qui lui a permis de franchir ce mur entre le cabinet et le social. Il me reste combien de temps ? 10 minutes ? Alors, quels sont ces points de butée que j'évoquais de façon très générale ? Qu'est-ce qui est sous la formule de résistance de la psychanalyse, hein, que je posais aux résistances à la psychanalyse? Alors ces points de butée, on les retrouve très tôt dans l'histoire de la psychanalyse, même si à la fois dans deux temps historiques, celui de qu'on peut caricaturer en disant qu'il y a eu l'espérance des débuts et puis après celui du relativisme, mais deux temps historiques qui restent présents aujourd'hui. Hein, ce ne sont pas l'espérance des débuts à laquelle s'est substitué le relativisme. Dans beaucoup de propos de psychanalystes, on va retrouver ce double mouvement d'espérance et de relativisme. Alors, pour en donner quelques repères, j'en ai isolé quatre, il y en a certainement beaucoup d'autres à isoler, je vais les citer avant de les développer un peu rapidement. Le premier point, c'est la question de la participation de la psychanalyse à ce que Freud a appelé le Kulturarbeit, au travail de la culture. Le second point concerne, là on est véritablement dans l'espérance des débuts, l'utopie préventive. Hein, par le biais d'une prévention des névroses, par le biais d'une éducation psychanalytique. Le troisième point, qui est à la fois un point d'interrogation, donc point de butée, comme je le disais, c'est le retour, la place du traumatisme dans la théorie psychanalytique. Le quatrième point, qui n'est pas mince, qui est lui aussi à la fois point de butée, point d'interrogation et de problématisation, est celui de l'avènement de la pulsion de mort dans l'œuvre freudienne et donc dans l'œuvre psychanalytique. Alors pourquoi isoler ces quatre points comme point de butée, comme point pour le coup de réflexion de ce passage possible, impossible, de l'espace du cabinet à l'espace du social, à l'espace institutionnel, puisque c'est l'objet de notre matinée. Alors du côté de ce premier point que j'évoquais, participation de la psychanalyse au Kulturarbeit. Alors, il est très, très clairement exposé, hein, cette espérance de contribution de la psychanalyse à ce travail de la culture, elle est très, très clairement soulignée en conclusion de la 31e des nouvelles conférences d'introduction, des nouvelles, selon les traductions, leçons d'introduction à la psychanalyse. Donc la 31e, publiée en 33. Et je lis la conclusion, sa visée, à savoir la psychanalyse, donc je cite Freud, la visée de la psychanalyse est, en effet, de fortifier le moi, de le rendre plus indépendant du surmoi, d'élargir son champ de perception et d'étendre son organisation, de sorte qu'il puisse s'approprier de nouveaux morceaux du ça, là où était du ça, du moi doit advenir. C'est là un travail culturel, à peu près comme l'assèchement du Zidersee. Voilà, je ne sais pas si vous avez en tête ce passage qui est fondamental, souvent cité, pas dans son intégralité, puisque vous avez entendu que le fameux « là où était du ça, du moi doit advenir » est la fameuse formule « wo es war, soll ich werden ». donc qui a été traduit de façon diverse, là où ça était, je dois advenir, bref, une espérance dans l'advenu du moi contre le ça, hein, c'est très clair dans la phrase de Freud, mais il ajoute aussitôt, et c'est pas rien, mais c'est là un travail culturel, donc Kulturarbeit, j'y reviens, à peu près comme l'assèchement du Zuiderzee. Autrement dit, qu'est-ce que l'assèchement du Zuiderzee? Pourquoi recourir à cette métaphore? Ben, l'assèchement du Zuiderzee, c'était ces polders hollandais dont il fallait reconstruire sans arrêt les digues. Autrement dit, ce travail de la culture évoqué par Freud comme un horizon, en tant qu'horizon, où le moi, en quelque sorte, contrôlerait le ça, eh bien, en même temps, et il le dit aussitôt, après tout, c'est une tâche impossible, ou en tous les cas tout aussi impossible et infinie que celle de remonter sans cesse les digues des polders hollandais. Donc vous voyez que cette question de psychanalyse, de la participation de la psychanalyse au travail de la culture, renvoie aussi à cette impossibilité-là, à cette difficulté-là, à cet impossible peut-être. Et là, on pense aussi à Bruno Bettelheim, qui, dans Le cœur conscient, évoque son entrée en camp de concentration et surtout évoque, l'inanité ou l'insuffisance ou le dérisoire de ses outils de psychanalyste pour comprendre ce qui se passe en l'occurrence. Donc quelque chose qui, entre le travail de la culture et la psychanalyse, en dépit de ses espérances, celle de la psychanalyse, reste peut-être impossible. Le deuxième point d'articulation de Buttet, comme je le disais, tournait autour de la question de l'utopie préventive. Alors un point qui est mieux connu, puisque c'est celui de l'éducation psychanalytique. Hein, on sait que Freud a confié à sa fille, à Anna Freud, et aux élèves d'Anna Freud, cette tâche-là. La tâche de prévenir les névroses, très clairement, grâce à l'élaboration d'une éducation psychanalytique. Une autre tentative, moins connue mais tout aussi importante, parce qu'elle a laissé moins de traces, est celle d'Eichhorn, August Eichhorn, qui lui aussi a tenté, dans un centre de redressement, pour être très clair, dont il était le directeur, de mettre en place quelque chose qu'il relevait pour le coup, pas de l'éducation, mais de la rééducation psychanalytique. Cela dit, que ce soit Anna Freud ou que ce soit August Eichhorn, dans les deux cas, pour Anna Freud directement, Anna Freud reconnaît, sur le tard, entre guillemets, c'est-à-dire dans les années 60, ben, une forme d'échec, d'impossibilité d'appliquer en effet la psychanalyse à l'éducation au sens strict du terme. Et puis pour Eichhorn, eh bien, c'est dans l'introduction du texte qu'il a écrit sur son expérience à Hollabrunn en Autriche que Freud lui-même pose des réserves. Donc voilà, deuxième point de Buttet, deuxième point de questionnement qui n'est pas un point impossible à surmonter. Dolto en fait la preuve, mais je n'aurai certainement pas le temps de le déployer. Enfin, deuxième point de Buttet quand même à retenir, cette question de l'éducation psychanalytique. Troisième point de Buttet, c'est la question du traumatisme et de son statut dans la théorie analytique. On sait, d'une certaine façon et paradoxalement, que c'est en écartant la réalité du traumatisme que finalement Freud a pu fonder la psychanalyse, hein, puisque en écartant la réalité de ces traumatismes, en l'occurrence de séduction sexuelle incestueuse évoquée par ses premières patientes hystériques, en écartant la réalité de ces traumatismes, on est renvoyé à la question fondamentale et fondatrice de la psychanalyse, à celle du fantasme. Donc finalement, il y avait nécessité d'écarter la réalité du traumatisme pour fonder la psychanalyse, en particulier dans sa dimension proprement fantasmatique. Mais pour autant, le traumatisme, n'en existe pas moins, et de plus en plus. Tout l'intérêt porté aujourd'hui sur les traumatismes de guerre, l'intérêt enfin porté sur les maltraitances à enfants, sur les incestes intrafamiliaux, dont on parle encore très en deçà de leur réalité. Bref, la réalité du traumatisme revient par l'actualité, par une société qui change. Et cette question du traumatisme a été reprise et revenue dans la psychanalyse grâce à Ferenczi. C'est Ferenczi qui, dont Dolto, et je le dis au passage, ça me paraît très important, est proche. Elle le dit, paraît-il, ça a été évoqué lors d'une conférence récente, elle le dit, paraît-il, dans un des films, ce que je ne savais pas. Mais en tous les cas, il est certain que Dolto n'écarte pas le traumatisme, et pas plus que de façon plus générale, je crois, et je suis pédopsychiatre, qu'on ne puisse écarter la réalité du traumatisme dans l'exercice analytique. Alors ça pose plein de questions, je ne vais pas les développer ici, simplement ouvrir une piste, celle de Dolto qui donnait un statut très précis au traumatisme. Le traumatisme, c'est ce qui avait permis à un enfant de contourner une castration symboligène, ou de penser ou de croire que la castration symboligène en question n'était pas fondamentale. Bref, pour Dolto, il y a un statut pour le traumatisme. L'autre piste, c'est celle de Ferenczi, qui lui aussi donne ce statut au traumatisme. Donc là aussi, à l'intérieur du champ analytique, il y a un point de butée, mais un point d'ouverture aussi. J'y reviens, en l'occurrence, celle du traumatisme. Le dernier point, et je m'arrêterai, ce sera la conclusion curieuse, c'est sur la question de la pulsion de mort. Elle aussi, la pulsion de mort vient télescoper, ébranler l'édifice psychanalytique. Il a ébranlé Freud lui-même, il le dit lui-même, hein, quand il évoque la question de la pulsion de mort dans ses écrits, il ajoute toujours un peu plus loin « à regret ». Je suis bien obligé de, il faut bien, je ne peux plus faire autrement maintenant que d'évoquer, que d'avoir recours à ce concept. Bref, il y a un effet d'ébranlement de la notion de pulsion de mort dans l'édifice analytique, qui conduit Freud, on le sait, à ce qu'on a pu qualifier de pessimisme freudien, qu'on va retrouver dans les considérations actuelles sur la guerre et la mort, écrit en 1915, et puis aussi dans son échange avec Einstein en 1933, Warum Krieg, pourquoi la guerre. Et là, je vais juste citer comme exemple de ce pessimisme freudien, on est quand même en 1915, donc très peu de temps après le début de la guerre, car notre conscience, loin d'être le juge implacable dont parlent les moralistes, est, par ses origines, de l'angoisse sociale et rien de plus. Là où le blâme de la part de la collectivité vient à manquer, la compression des mauvais instincts cesse et les hommes se livrent à des actes de cruauté, de perfidie, de trahison et de brutalité qu'on aurait cru impossible à en juger uniquement par leur niveau de culture. Alors, je ne peux pas là, mais ce n'est pas très grave, parce que c'est un moment d'une réflexion, ce dont je vous parle là, évoquer dans le détail comment finalement Dolto ne répond pas directement, mais indirectement, par ces deux biais que j'ai évoqués, hein, ce paradigme de la cure, avec cet élément tout à fait essentiel qui, je crois, permet de transposer le paradigme de la cure à d'autres situations, qui est là aussi une notion d'Héridienne, celle de l'hospitalité, de l'accueil sans alibi, de la présence à l'autre. Et le deuxième point, renvoyant à Dolto, au sein de cette problématique que je viens d'essayer d'exposer, eh bien, est celle de cette démarche propédeutique, c'est-à-dire non pas quelque chose qui est de l'ordre de l'enseignement, de questions dont elle aurait la réponse toute faite, mais au contraire d'une marche en avant, d'une preuve du mouvement en marchant. Voilà, merci.